Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Vous en avez peut-être marre des médias ou réseaux sociaux centralisés et privateurs. Et bien, ça va être l'occasion aujourd'hui de découvrir le Fediverse, un ensemble de médias sociaux libres administrés de façon autonome et connectés entre eux. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de G sur le technosolutionnisme et également en fin d'émission la chronique de Laurent et Laurette Costi, forensique des JDLL 2023. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 18 avril 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, pour une première d'ailleurs sur les interventions à distance, donc il est un petit poil stressé, on va l'encourager, c'est Thierry Holville. Bonjour Thierry.
Bonjour à tous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique Les Humeurs de G. G, auteur du BD, du blog BD Grise Bouille, nous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage qu'il l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Bonjour G.
Bonjour Fred.
J'allais dire c'est super, tu es là, mais Thierry me coupe mon micro. Eh ben, je te laisse la parole G.
Ok, très bien. Merci Fred. Alors, salut à toi, public de Libre à vous. Pour commencer, je vais te faire une petite confidence. Attention, c'est secret. Hein. Allez, on est entre nous. Je te le dis, j'aime bien l'informatique. Bon, ça va, fais pas semblant d'être surpris. Bon, ok, c'est vrai qu'on est dans une émission de radio de l'April, association de défense et de promotion du logiciel libre. Et si tous les gens passionnés d'informatique ne sont pas libristes, il faut admettre que la plupart des libristes sont des passionnés d'informatique. Moi d'ailleurs, si j'aime bien l'informatique, c'est pas juste pour le logiciel libre. J'ai d'ailleurs développé une passion pour l'informatique bien avant de découvrir le logiciel libre. Une passion qui est venue, je pense, en découvrant que ce petit outil qu'était l'ordinateur me permettait de faire une foule de trucs chouettes. Et si aujourd'hui je fais beaucoup de dessins, de musique, d'écriture, si je développe même un jeu vidéo, bon, c'est certes parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille de profs. L'ambiance était plus Télérama, vacances culturelles que Télé 7 jours et vacances dans la cour du HLM. Mais bon, au-delà du déterminisme social, c'est aussi parce que j'ai eu la possibilité technique de faire des choses inimaginables sans informatique. Du dessin animé avec Inkscape et quelques scripts Python, des musiques d'orchestre symphonique avec MuseScore ou Ardour, des livres auto-édités avec LaTeX, avec Pandoc, avec etc. etc. Bon, cette passion pour l'informatique, je pense qu'on est pas mal à l'avoir développée d'une manière ou d'une autre, notamment dans le milieu du logiciel libre. Les expériences diffèrent, le résultat est souvent le même, on aime ça. Alors être passionné, c'est très chouette, hein. Bon, sauf si votre passion, c'est d'exploser la tronche de vos semblables, mais on n'est pas là pour parler du ministre de l'Intérieur. Non, être passionné, c'est chouette, mais ça peut amener un certain nombre d'angles morts. Par exemple, les libristes sont en général proches des milieux militants pour l'écologie et la justice sociale, mais ont parfois du mal à prendre la mesure de l'impact environnemental du numérique qui, s'il est faible comparé au transport, au chauffage ou à l'alimentation carnée, est quand même loin d'être négligeable. Qu'il soit basé sur du logiciel libre ou non, hein. Alors évidemment, on imagine aisément qu'un numérique soutenable serait nécessairement low-tech, c'est-à-dire qu'on arrêterait la course à l'échalote de la puissance de calcul, qu'on minimiserait le nombre d'appareils numériques et qu'on les ferait durer le plus longtemps possible. Un état d'esprit assez incompatible avec le modèle économique des industries du logiciel propriétaire, ou privateur, industrie qui pratique l'obsolescence programmée à tout va et pour qui l'augmentation de la consommation énergétique du numérique est une excellente nouvelle. Et vas-y que je te construis un nouveau data center, et vas-y que je te remets une couche de 4G, de 5G, de 6G, avec l'explosion de la bande passante, les nouveaux téléphones qui vont avec et les anciens qu'on peut jeter. Merci la fuite en avant. Le logiciel libre, en revanche, permet souvent de donner une deuxième vie à de vieux appareils, avec des distributions GNU Linux légères pour remplacer votre vieux Windows, plus maintenu par Microsoft, etc. Bon, en général, le modèle économique du logiciel libre n'est pas non plus basé sur la publicité ou la recherche de croissance infinie, mais sur la recherche d'un certain équilibre, ce qui serait déjà plus compatible avec une société sobre et décroissante. Reste le problème principal, et vous connaissez la devise, quand on a une tête de marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Et je parle évidemment du technosolutionnisme. Alors certes, les libristes ont en général un peu de recul et ne se vautrent pas dans le technosolutionnisme le plus crasse comme le premier start-upper cocaïne est venu, mais on n'est pas là pour parler du président de la République. Non, en gros, on n'est pas les pires, mais ce serait nous mentir à nous-mêmes que de croire que nous sommes immunisés contre le technosolutionnisme. Alors, le technosolutionnisme, c'est considérer qu'à tout problème, il existe une réponse technologique. Donc, dans notre monde moderne, c'est très souvent une réponse numérique. Par exemple, au début de la pandémie de Covid-19 en 2020, on nous a sorti cette fameuse application pour smartphone, Stop Covid, puis Tous Anti-Covid, comme une sorte de Saint Graal qui allait tout résoudre. Évidemment, cette appli posait des problèmes de vie privée et de flicage, problèmes contre lesquels nous autres libristes nous sommes évidemment élevés. Au-delà de ça, pourtant, c'était l'intérêt même de faire une app qui posait question. Quelques semaines après son lancement, on vantait les quelques 10 000 cas contacts notifiés par l'app depuis son lancement, quand la Caisse nationale de l'assurance maladie en notifiait 120 000 par jour. Bon, visiblement, la Sécu fait un super boulot malgré des moyens toujours en baisse, mais technosolutionnisme oblige, on va certainement pas investir dans un truc aussi has-been que du personnel quand on peut se la jouer Startup Nation avec une app qui marche pas, certes, mais qui donne bien l'impression qu'on a fait des trucs modernes. Notez, l'appli en question a été publiée sous licence libre. Comme quoi, c'est pas le problème. Entendons-nous bien, quitte à avoir un outil numérique, alors oui, il faut qu'il soit sous licence libre. Mais c'est une condition nécessaire et certainement pas suffisante. Et là, je ne peux pas ne pas vous citer le blog de mon camarade Louis Derac, un blog que je vous conseille au passage, dans lequel il propose trois points essentiels pour un numérique dit acceptable. Premier point, un numérique acceptable doit être émancipateur et non aliénant. Bon, ça, ok, on voit facilement en quoi le logiciel libre convient largement mieux que le privateur sur ce point. Exemple, le privateur YouTube nous aliène avec ses pubs et son algo qui vise à nous garder scotchés devant l'écran, le libre PeerTube nous émancipe en nous permettant d'auto-organiser des plateformes de vidéos indépendantes et non soumises aux diktats de la pub et de l'audience. Simple. Non, vous inquiétez pas, je vais pas faire une parodie d'Orelsan, mais c'est simple, quoi. Deuxième point, un numérique acceptable doit être choisi et non subi. Eh oui, et ça j'en avais déjà parlé il y a quelques temps dans ma chronique sur la fracture numérique, où j'évoquais les gens laissés de côté par la numérisation à marche forcée des services publics. Eh ben, même si le site web pour consulter ses droits au chômage, à la retraite, tout ça, outil émancipateur hein, s'il en est, eh ben, même si ce site web était sous licence libre, ça ne suffirait pas. Un site web, c'est bien pour les gugus comme moi qui ont un clavier collé aux paluches en permanence, mais pour ton cousin qui se trimballe le même Nokia depuis 25 ans et qui se fout autant de l'informatique que moi je me fous du patinage artistique, un guichet, c'est bien aussi. Et puis troisième et dernier point, et pas des moindres, un numérique acceptable doit être soutenable humainement et environnementalement. Ouais. Alors, on n'y est pas, hein, je vous le dis. Environnementalement, entre l'épuisement des ressources et évidemment l'impact carbone des technologies numériques, on a un sacré boulot à faire pour espérer créer un low-tech soutenable avant qu'un effondrement environnemental ne nous force au no-tech tout court. Et humainement, comment vous dire ? Si la compagnie Fairphone, qui fabrique des téléphones dits équitables, communique autant sur le fait que ces minerais ne viennent pas de mines qui font travailler des enfants, je vous laisse deviner ce qu'il en est du reste de l'industrie. Puis tiens, il y a quelques années, on avait aussi découvert que les joyeuses usines d'Apple en Chine étaient équipées de filets anti-suicide, tellement trop de salariés se foutaient littéralement par la fenêtre pour échapper à leurs conditions de travail. Voilà à peu près où on en est. Bref, pour faire simple, forcer les gens qui veulent consulter leur compte en banque à avoir un smartphone non désiré, construit par des esclaves, obsolète au bout de 2 ans et non réparable, même si on a mis une variante d'Android libre dessus, c'est quand même de la merde. Alors, évidemment, je vais pas prôner la technophobie non plus, ce serait assez hypocrite de ma part. De toute façon, des secteurs de nos vies modernes qui sont soutenables humainement et environnementalement, honnêtement, il n'y en a pas des masses. Donc, on fait comme le reste, on fait au mieux. Chacun selon ses moyens et son énergie. Et essayons toujours de nous poser la question, au-delà du logiciel libre, de quel numérique nous semble acceptable. Et bien sûr, au-delà de ça, quel monde nous semblerait acceptable. Ouais, je sais, ça fait large. Pour conclure, des fois, pas toujours, hein, mais des fois, la bonne réponse à un numérique privateur, c'est pas un numérique libre, c'est juste pas de numérique du tout. Et d'ailleurs, je vais appliquer le principe immédiatement en me déconnectant de cette émission, même si bien sûr je vous retrouve le mois prochain. En attendant, je vous dis salut.
Bah écoute, merci G, je vais en profiter pour préciser que tu as parlé de low-tech, ce sera le sujet principal de l'émission du 9 mai 2023, tu as parlé du Fairphone, j'aurai le plaisir d'accueillir Agnès Crépet le 23 mai 2023 pour parler de son parcours et notamment de son passage à Fairphone, et sur le salon web et ici au studio, je crois que nous avons particulièrement apprécié les deux références à l'actualité que tu as fait de façon tout à fait discrète. Je te souhaite une bonne fin de journée, surtout une bonne déconnexion et donc au mois prochain.
Eh bien oui, au mois prochain. Salut Fred.
Salut. Alors nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons donc du fait divers. Et la pause musicale d'ailleurs a été choisie par l'une des invitées, Audrey Guélou. Nous allons écouter Her Song par David Mathias. On se retrouve dans 2 minutes 45. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Inside some small screen, you made a portrait of me, but I couldn't see with all those scribbled lines. Why are you so stuck? Just get out and run. Be sure to not look back. When you have the key, just come to me. We'll see the sunrise again. Surprised with tears in my eyes and running through my face. When will I realize that I fantasize and end up in the same place? Can I be sure?
Par David Mathias, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le fait divers. Alors, je ne vais pas définir pour le moment le fait divers, même si j'en ai donné une définition au tout début de l'émission, parce que je vais laisser évidemment nos invités en parler largement. Donc, nos invités au studio, avec moi en face, Audrey Guélou. Bonjour Audrey.
Bonjour Frédéric.
Et normalement, avec nous à distance, Thomas Citarel. Bonjour Thomas.
Bonjour Fred, bonjour tout le monde.
Alors je profite pour féliciter le réalisateur de l'émission, Thierry, parce que tu vois, tout fonctionne nickel. Alors que c'est une première pour l'intervention à distance, on utilise un nouvel outil. Alors n'hésitez pas à participer d'ailleurs si vous voulez à notre conversation, si vous voulez utiliser un outil supplémentaire qui est le téléphone, donc au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, ou alors sur le salon web dédié à l'émission, sur le site de causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Donc on va parler du fait divers, et avant de poser la question de un petit peu de définir ce qu'est le fait divers, on va commencer par la question traditionnelle de présentation des deux personnes invitées. On va commencer par Audrey Guélou.
Oui, alors je suis membre de l'association Picasoft qui fait de l'éducation populaire au numérique autour de Compiègne et puis qui propose des services web libres et gratuits. Je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Université de technologie de Compiègne. Et puis je suis très contente de pouvoir parler du fait divers aujourd'hui avec toi, avec Thomas aussi. Donc merci Fred, merci Thierry d'April d'ouvrir cette discussion et puis de m'inviter à y participer.
Eh bien, c'est avec grand plaisir. Donc, petite présentation aussi de ta part, donc Thomas Citarel.
Oui, bonjour, je suis membre salarié de l'association Framasoft, que les auditeurs de cette émission doivent probablement connaître. Je suis principalement développeur et administrateur système également pour tout ce qui est des logiciels développés et améliorés ou modifiés par Framasoft et proposés comme service au grand public. Et en particulier, du coup, aujourd'hui j'ai développé un logiciel qui s'appelle Mobilizon et porté par Framasoft et faisant partie du fait divers. Donc voilà le lien avec l'émission d'aujourd'hui.
Alors on parlait effectivement de Mobilizon tout à l'heure. Je vais préciser donc les deux URL, donc des deux structures qui ont été citées, hein, donc c'est picasoft.net et framasoft.net. Et si on cite des logiciels, des documents, toutes les références seront sur le site de l'émission, donc sur libreavoue.org, soit elles le sont déjà, soit elles le seront après l'émission. Alors, donc le fait divers. Alors on a déjà cité ce mot dans l'émission consacrée à Mastodon, le réseau social libre de microblogging qui a beaucoup de succès, enfin qui existe depuis pas mal d'années, mais qui a eu un pic d'audience récemment, notamment suite au rachat de Twitter par Elon Musk. Mais on n'était pas rentré dans les détails, donc on s'est dit on va inviter deux personnes expertes du sujet pour nous expliquer ce qu'est le fait divers. Alors, c'est probablement une première émission, il y aura peut-être d'autres parce que c'est quand même très, on va voir, c'est très très large. Mais première question, bah, finalement, quelque part, et on va commencer par Audrey, comment tu définirais le fait divers ?
Alors, le fait divers, on peut commencer par dire que c'est un ensemble de médias sociaux. Un ensemble de médias sociaux qui vont être connectés entre eux, on dira fédérés, mais on peut en rester là pour l'instant. Et puis, ce sont des médias sociaux qui vont être répartis sur des milliers de serveurs, des milliers de sites différents dans le monde entier. Et donc, voilà, alors, on peut être familier du fait divers au sens où les fonctionnalités sont communes avec les médias sociaux qu'on a peut-être plus l'habitude d'utiliser. Ce sont des médias sociaux qui permettent d'échanger des textes courts, des photos, des vidéos, d'interagir avec des utilisateurs, de publier du contenu, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre des médias sociaux centralisés, type Twitter, Facebook, YouTube, une différence structurelle qui est que les médias sociaux du fait divers, eh bien, ils sont décentralisés. Donc il faut, on peut se figurer cette structure-là par un archipel. On peut dire que voilà, les médias sociaux du fait divers, c'est comme les îles d'un archipel où chaque média social, c'est une des îles d'un archipel. Donc l'île va être gérée par une communauté ou par un particulier de façon autonome. Et puis les îles ne sont pas isolées, c'est-à-dire que tous ces médias sociaux-là communiquent aussi entre eux.
D'accord. Thomas, sur cette introduction, est-ce que tu souhaites compléter ?
Alors, on a parlé du coup de médias sociaux. Il ne faut pas s'arrêter forcément du coup à la comparaison Twitter-Mastodon. Typiquement, le fait divers peut avoir une portée un peu plus grande. Typiquement, on ne mettrait pas YouTube dans la catégorie de médias sociaux forcément, même s'il y a un système de commentaires. Et du coup, l'alternative que Framasoft propose notamment, qui s'appelle PeerTube, permet de d'échanger, de visionner des vidéos et d'interagir avec de manière fédérée. On va expliquer encore une fois juste après comment ça fonctionne. Voilà, c'est un peu plus des question d'outils, il y a aussi des alternatives un peu à Spotify, des plateformes de podcast par exemple qui sont fédérées. C'est plus une manière de faire fonctionner un outil informatique qui ne soit pas centralisé et entre les mains du coup d'une seule entité plutôt que uniquement un système d'alternatives dans le cadre des médias sociaux uniquement.
D'accord. Alors j'ai une petite question. Parce que tous les deux, vous avez employé l'expression médias sociaux, alors qu'on parle souvent de réseaux sociaux. Est-ce que vous faites une différence entre les deux, et si oui, laquelle? Et est-ce que ça a un impact au niveau du fait divers, Audrey?
C'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'on parle des médias sociaux. Je parle de médias sociaux maintenant, en faisant la différence effectivement entre médias sociaux et réseaux sociaux, au sens où un média social, c'est ce qui va permettre de créer, de maintenir, de développer des réseaux sociaux, c'est-à-dire des liens entre les gens, en échangeant des médias, en interagissant autour de médias. Voilà, donc en fait, le média social, ça va plutôt être, on va dire, la technologie, l'outil, le dispositif numérique autour duquel se créent des réseaux sociaux, c'est-à-dire voilà, des liens entre les personnes. C'est comme ça que je le vois.
D'accord. Tu fais la même différence, Thomas, et puis vas-y.
Alors, je ne l'utilise pas sémantiquement, mais je suis tout à fait d'accord avec l'interprétation d'Audrey.
Ok. Alors, je précise que Thomas, comme tu es à distance, il y a un moment tu veux intervenir, n'hésite pas, parce qu'Audrey est en face de moi, c'est beaucoup plus simple.
Tout à fait.
Alors, vous avez employé un terme fédération. Alors, dans l'imaginaire des gens, fédération, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la fédération, donc, de ce concept de médias sociaux? Audrey, ou Thomas, qui veut commencer?
Je vais commencer. Ouais. Du coup, la fédération que vous connaissez peut-être, c'est typiquement des associations de sport, par exemple, je ne sais pas, la Fédération française de football, par exemple, elle fait en sorte de fédérer des structures plus petites en ayant une entité un peu au-dessus. Dans le cadre du fait divers, il n'y a pas d'entité qui régit ces différentes sous-entités, mais le fonctionnement du réseau fait que chaque entité peut se parler avec un vocabulaire commun, avec des méthodes communes, et ça fait en sorte que chaque entité du réseau, quelle que soit sa taille, a les mêmes droits à la base, a la même capacité à échanger entre chaque entité, et potentiellement chaque entité se connaît.
D'accord. Audrey ?
Oui, ouais, effectivement, qu'est-ce que je peux rajouter? Simplement, peut-être que la fédération, on peut la voir, oui, sous l'angle à la fois technique et puis social, politique. Il y a la fédération technique, c'est oui, ce que disait Thomas sur le fait que on va avoir des médias sociaux donc différents. Donc par exemple un média social du type Peertube qui va permettre de partager des vidéos, un média social comme Mastodon qui permet de s'échanger des messages courts en particulier. Ces médias sociaux sont voilà, ont des fonctions différentes, mais grâce à la fédération technique, en fait, grâce au fait que ces logiciels-là vont utiliser un même protocole de communication, c'est-à-dire les mêmes règles, les mêmes normes pour communiquer, pour s'échanger de l'information, eh bien, on va pouvoir se communiquer des utilisateurs de médias sociaux qui sont répartis sur plein de serveurs différents. Donc voilà, la partie technique, c'est le terme d'interopérabilité.
Oula.
Ouais, on aime bien celui-là.
Il va falloir l'expliquer.
c'est ce que décrivait Thomas, hein, c'est le fait de faire communiquer des entités hétérogènes, des entités différentes, c'est-à-dire, moi par exemple, j'ai mon média social à moi qui permet du partage de photos, Thomas a son média social qui permet du partage de vidéos, ce sont des logiciels qui fonctionnent différemment, mais comme ils utilisent le même langage, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir interagir, même si on fait des choses différentes. Voilà, c'est cette notion de protocole commun. Et puis après, ce que je voulais peut-être ajouter, c'est la partie la fédération, la gouvernance, le fait, ouais, que contrairement à une configuration centralisée où on a effectivement une personne, une organisation qui va contrôler l'ensemble du réseau, qui va définir les règles de communication pour tout le monde. Et bien là, dans une fédération, et bien chaque personne qui possède une partie du réseau, qui possède un média social du fait divers, eh bien, va gérer ce média social-là de façon indépendante, de façon autonome, sans pour autant être isolé. C'est-à-dire que voilà, on a sa portion du fait divers où on va pouvoir voilà, définir une ligne éditoriale, définir des règles d'utilisation. Mais pour autant, on n'est pas isolé sur son île. On va pouvoir aussi communiquer avec d'autres îles. C'est l'intérêt de la fédération.
D'accord. Alors on va y revenir évidemment sur cette notion de gouvernance, de règles d'utilisation, de modération, etc. Juste d'un point de vue technique, comme on a, vous avez parlé un petit peu de technique, allons un peu plus loin, mais sans rentrer trop dans, évidemment dans les détails, mais il y a un mot-clé qui revient souvent quand on parle de faits divers, c'est instance. Alors c'est quoi une instance, Thomas ?
Alors, une instance, c'est pas forcément le vocabulaire le plus évident pour les néophytes, mais c'est celui qui est souvent utilisé. Globalement, il s'agit de serveurs, finalement. De la même manière que vous avez différents fournisseurs de services pour échanger du mail, vous pouvez du coup choisir d'avoir un email hébergé chez un géant du web comme Microsoft ou votre fournisseur d'accès à Internet, local ou pas, qui vous fournit une adresse mail. Du coup, ces fournisseurs de services ont des serveurs et de la même manière, vous allez avoir des fournisseurs de services qui vont vous fournir un accès aux faits divers, avec du coup les logiciels comme Mastodon qui peuvent permettre d'échanger des messages, ou Peertube qui permettent d'échanger des vidéos, ou de PixelFed qui permettent d'échanger des images. Tous ces logiciels-là sont mis à disposition des utilisateurs sur un serveur. Et du coup, si je veux, de la même manière que si je veux envoyer un email, je vais me connecter avec les identifiants que m'a donné mon fournisseur d'accès. Cette fois, je vais me connecter à mon instance. Et même si quelqu'un n'est pas sur la même instance que moi, je peux communiquer de la même manière que si j'étais sur Hotmail, je peux envoyer un email à quelqu'un qui est chez SFR.
D'accord, moi ça me paraît très clair. Alors il y a Thierry qui est en régie qui a l'air quand même de dire, bon là, je pense qu'il a quand même saisi l'essentiel. C'est des choses qui sont pas très simples, alors qu'en fait c'est quelque chose qui historiquement dans l'internet et dans le web existe. J'avais une question avant de enchaîner. Est-ce que ces logiciels dont on parle sont forcément libres dans le fait divers?
Il me semble qu'il doit y bien y avoir 2-3 exceptions, mais Thomas, peut-être que tu en sais plus que moi. Mais alors, la grande majorité sont libres. Mais j'ai un petit doute là-dessus. Thomas, je ne sais pas si tu en sais plus.
Il me semble qu'il y a eu une exception d'un logiciel, effectivement.
Okay.
Mais je ne m'avancerai pas davantage.
Okay. C'est la question que je me suis posée hier soir. Ça me paraissait tellement évident.
C'est là où on les cache.
Voilà. Bon. Donc, pour essayer, comme on a fait effectivement une émission sur Mastodon récemment, mais Mastodon, donc, c'est un logiciel libre qui est développé par une communauté depuis maintenant plusieurs années. Et donc, des gens, alors je vais vous poser la question de savoir qui sont ces gens-là, prennent ce logiciel libre, l'installe sur un de leurs serveurs, donc ça va devenir une instance. Donc par exemple, une instance, ça peut être, les gens, quand on a fait l'émission sur Mastodonte, il y avait pi.fr qui est une instance Mastodonte. Framasoft a son instance Mastodonte qui est framapiaf.org. Donc derrière, c'est le même logiciel libre, donc en l'occurrence Mastodon, mais ce sont deux instances différentes, donc deux serveurs différents, mais qui vont communiquer entre eux. Et donc ma question, c'est en fait, qui sont ces personnes qui finalement installent et proposent ces instances? Est-ce que ce sont des... Ce qu'on voit bien sur les entreprises du logiciel privé, enfin des réseaux, des médias sociaux privateurs, que ce sont des entreprises qui se financent par la pub et par la captation de données personnelles, mais dans le fait divers, qui sont les structures qui proposent ce genre d'instances? Audrey, déjà.
Il y a des associations qui proposent des instances, il y a des particuliers, des personnes aussi qui vont mettre en place leur propre instance. Alors ça peut être des instances à quelques dizaines d'utilisateurs, ça peut être pour un groupe d'amis par exemple, ou bien des instances à 500 ou plusieurs milliers d'utilisateurs et utilisatrices. Oui, ça va être surtout, il me semble, des associations, quelques entreprises aussi. Il y a des associations du collectif des chatons, les hébergeurs.
Alors c'est quoi les
chatons? Voilà, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ils sont une centaine maintenant en France et donc qui proposent des services libres. Et donc je pense surtout beaucoup d'associations, des groupes de personnes ou des personnes seules qui vont chercher à contribuer aux faits divers, à avoir à ouvrir un espace en fait de communication où on va pouvoir définir des règles d'utilisation Et puis offrir un espace pour interagir, voilà, c'est ça l'idée. Hein.
D'accord. Thomas, sur ma question.
Dans le cadre du coup de leur communication, il peut y avoir des structures diverses qui vont aussi ouvrir des services fédérés. Donc dans le cadre de Mastodon, très dernièrement, on a vu des médias ouvrir leur instance et proposer des comptes à tous leurs journalistes, par exemple. On a vu dans le cadre de Peertube certaines structures lancer leurs propres instances pour diffuser leurs vidéos, et dans le cadre de Mobilizon, qui est du coup une plateforme de diffusion d'événements, des structures de collectifs comme Extinction Rebellion par exemple, diffuser leurs événements par ce biais.
D'accord. Vas-y Audrey, tu voulais compléter ?
Oui, effectivement, comme Thomas, tu as raison, tu as lancé sur des exemples aussi plus précis, ouais, de collectifs. Par exemple, sur Mastodon, il y a une instance qui a été ouverte récemment pour les collectivités territoriales, qui s'appelle colter.social. C'est-à-dire que voilà, il y a des instances à thème, des instances aussi pour plutôt des personnes qui sont intéressées pour partager des discussions scientifiques. Il y a par exemple social.science.re. Il y a des instances qui vont être aussi dédiés à certaines langues. Il y a Occitania.social pour parler l'occitan, il y a une instance bretonne aussi, mastodon.cd.bzh, une instance qui va chercher sinon à parler, à avoir des discussions sur l'imaginaire, des discussions de fiction, etc. Enfin, c'est ça. Donc il y a des associations qui ouvrent des instances généralistes sans thème particulier, ou bien d'autres aussi qui sont ouvertes pour parler de thèmes que l'on va choisir plutôt.
Donc avec des thèmes qu'on va choisir, et aussi comme tu le disais tout à l'heure, des conditions d'utilisation, donc conditions générales d'utilisation ou des règles qui vont être choisies par la structure ou le groupe qui crée finalement cette instance, et éventuellement discuter avec l'utilisateur et l'utilisatrice. Finalement, l'opposé complet d'un système centralisé où en fait les mêmes règles s'appliquent à des millions de personnes et du jour au lendemain peuvent changer sur la décision d'une seule personne. Comment ces règles sont mises en œuvre ? Est-ce qu'il y a des règles types ? Quels sont les sujets qui sont abordés dans ces règles d'utilisation des instances Mastodon ? Des instances du fait divers ?
Oui, alors tu as parlé comme ça de Mastodon, tu as lancé Mastodon, je prends la balle au bon, hein, j'y vais là-dessus parce que c'est là-dessus peut-être que j'aurai plus d'exemples précis pour les règles. Alors, il y a certaines règles qu'on va retrouver généralement sur plusieurs instances du type... bien sûr, ne pas poster de contenu illégaux, ne pas poster de contenu violent, d'appel à la haine, ne pas faire de harcèlement, des choses comme ça, voilà, des règles comme ça, mais qui sont explicitées dans les règles de l'instance. Et puis après, selon les thèmes, on va avoir aussi des instances qui vont refuser d'aborder certains thèmes, refuser certains termes. Et puis, au niveau de la décision de ces règles-là, eh bien, soit, alors si c'est une personne simple, une personne seule, ça va être assez simple, sans sous là, si on est seul à mettre en place une instance, eh bien, on décide des règles pour son instance. Et puis après, si on est une association, un collectif, là, effectivement, l'enjeu, ça va être de se décider pour mettre en place un ensemble de règles a priori, et puis ensuite pour se décider des décisions à prendre a posteriori sur les cas à modérer. Et voilà, mais c'est un enjeu vraiment de gouvernance où là, on va vraiment redonner un petit peu plus de pouvoir aux utilisateurs, aux utilisatrices du fait divers. Si on s'implique dans la modération d'une instance, là, on n'est plus dans la posture d'un utilisateur qui va subir des règles sans pouvoir les discuter. Là, on peut plutôt contribuer à faire évoluer les règles de l'espace où on communique.
Alors, avant de passer la parole à Thomas, quand tu parles de modération, on a déjà consacré un sujet sur la modération dans Libre à vous, donc vous utilisez moteur de recherche parce que j'ai pas le numéro en tête, et normalement on va reconsacrer un sujet justement sur la modération sur le fait divers, peut-être pas sur cette saison-là, mais peut-être à la reprise de septembre, mais en tout cas c'est prévu au programme. Thomas, du côté de Mobilizon, c'est pareil, dans les instances, il y a des règles de fonctionnement qui sont adaptées donc à Mobilizon ?
Alors dans le cadre de Mobilizon, comme il s'agit d'une plateforme de diffusion d'événements et de gestion de groupe, on a moins ces sensibilités puisque, contrairement à Mastodon, qui était l'exemple pris par défaut, l'audience n'est pas définie au monde entier et la discussion ouverte est plus faible. Donc il y a moins de problèmes d'accroche. On n'a pas trop d'occasions, du coup... On ne l'a pas encore évoqué, du coup, de faire du blocage d'instances entière, par exemple, si jamais il y en a une instance qui autorise, par exemple, des contenus complètement illégaux dans notre pays. Donc voilà, c'est assez limité les questions de modération dans, au sein de Mobilisons. C'est plutôt des questions de spam ou de qu'est-ce qui est acceptable comme contenu, mais c'est plus simple à modérer que des cas pas forcément évidents.
Partage de photos, par exemple, c'est plus compliqué.
Dans Mobilisons.
Par exemple, le partage de photos, j'imagine que les instances de partage de photos, ça va être un peu plus compliqué
Ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est aussi l'occasion, du coup, de définir plus précisément une politique de qu'est-ce qui est acceptable ou non, plutôt que, par exemple, Facebook qui va censurer dès qu'il y a un peu de nu sur une image, voilà, pour savoir qu'est-ce qui est acceptable. Est-ce qu'on le met, du coup, derrière un avertissement? Est-ce qu'on dit que l'instance est uniquement accessible aux gens de plus de 18 ans, par exemple? Voilà, on peut faire évoluer ces règles et du coup les utilisateurs peuvent trouver une instance qui correspond à ce qu'ils cherchent.
D'accord. Et ce qui est intéressant, enfin, tu as évoqué le blocage d'instances, donc peut-être juste parler rapidement du fait que sur ces instances-là, on peut bloquer des personnes, mais une instance peut aussi choisir, peut-être que Thomas tu peux préciser, de bloquer une instance tout entière. Quelle est la motivation qui peut arriver pour bloquer une instance tout entière?
Eh bien du coup je prenais l'exemple d'une instance qui autoriserait du contenu qui n'est pas légal en France par exemple, le Japon par exemple ayant une politique un peu différente sur la représentation graphique de mineurs, de dessins, bien j'entends, ce qui est a priori toléré au Japon et qu'on tombe plutôt sur le coup de la pédopornographie en France. Je m'avancerai pas par rapport aux juristes, mais voilà, ça peut être un point où on va décider qu'on ne peut pas surveiller l'ensemble du contenu envoyé par les utilisateurs de l'autre instance et pour ne pas prendre le risque que du coup des médias qui seraient illégaux en France arrivent sur notre serveur, on préfère les bloquer préemptivement. Ça peut être aussi du contenu beaucoup plus évident parce que certains n'appliquent pas des règles assez basiques, donc néo-nazis et compagnie.
D'accord. Ok, c'est très clair. On va faire une petite pause musicale avant de se poser la question de pourquoi vaut-il la peine de s'intéresser aux faits divers, et pas que les geeks, est-ce que la question peut-être de départ tout après. Mais on va faire une pause musicale, et cette deuxième pause musicale a été encore choisie par Audrey Guélou. Donc nous allons écouter Everything's Gonna Be Alright par Alpha Brutal. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
You gotta take a break, I will help you. Hey then, why don't you wanna come with me? Gonna show you something. Get ready, good one. Close your eyes, relax and drink. Let me help you. We'll be right back.
d'écouter Everything's Gonna Be Alright par Alpha Brutal, disponible sous licence libre CC by SA Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors nous allons poursuivre notre discussion sur le fait divers, hein, cet ensemble de médias sociaux libres, fédérés entre eux, qui nous occupe aujourd'hui et qui nous occupera sans doute sur d'autres émissions. Donc je rappelle que vous pouvez participer à notre conversation en allant sur le salon web dédié à l'émission, hein, sur causecommune.fm, bouton de chat et salon libre à vous, et éventuellement par téléphone au 09 72 51 55 46. Thierry attend vos appels avec impatience. Donc je suis toujours avec Audrey Guélou, donc de Picasoft et de l'Université de Technologie de Compiègne, et Thomas Citarel de Framasoft. Alors juste avant la pause, on parlait un petit peu de ce qu'était le fait divers. Et je disais, mais finalement, pourquoi faut-il s'y intéresser? Est-ce que finalement c'est un truc de geek? Est-ce que... Alors première question, pourquoi faut-il s'y intéresser?
Alors pourquoi s'y intéresser? Et pourquoi s'y intéresser pour aller explorer ce qui s'y passe? C'est vrai qu'il y a une diversité. On parlait voilà, du fait que le fait divers, c'était un ensemble de médias sociaux différents, donc du partage de musique, de vidéos, de messages, de photos, de l'organisation d'événements, des billets de blog, des podcasts, etc. Enfin, il y a une diversité de formats de médias partagés dans le fait divers. Et puis aussi et surtout, enfin aussi une diversité de façons de faire, c'est-à-dire pour du partage pour un média social comme Mastodon, effectivement, du microblogging, eh bien, il y a une diversité de Mastodons différents. Et donc, voilà, on va pouvoir échanger sur des thèmes ou selon des habitudes qui sont diversifiées dans le fait divers. Donc, cette part d'exploration-là et d'avoir une multiplicité d'alternatives pour communiquer avec des médias sociaux, ça c'est chouette d'aller explorer. Et puis ensuite la deuxième chose peut-être à dire ensuite, c'est le fait de, eh bien, de se donner le choix, ça va avec, hein, mais c'est le fait de se donner le choix, d'avoir la liberté de choisir, eh bien, dans quel espace j'ai envie de communiquer, j'ai envie de publier des choses, qui va décider des règles qui détermineront ce que je peux dire, comment je peux le dire, etc. Voilà, se redonner le choix et puis se réapproprier un petit peu ces technologies-là éventuellement si on souhaite ensuite contribuer aux faits divers en mettant aussi sa pierre, en mettant en place sa propre instance, c'est aussi possible.
Alors Thomas, sur cette question, déjà en tant que personne utilisatrice et après en tant que personne contributrice, parce que toi tu contribues.
Alors il y a la question du coup de l'alternative. Clairement on peut rejoindre le fait divers en tant que rejet typiquement de Twitter, c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment, mais d'autres médias sociaux centralisés pourraient aussi être utilisés entre exemples. C'est pas forcément lié à la fédération, mais du coup on peut faire un usage de ces outils-là qui ne soient pas influencés par du coup une culture américaine uniquement, puisque du coup tous les médias sociaux qu'on utilise sont soit faits en Californie, soit maintenant un peu depuis la Chine, et ont un modèle économique assez semblable. Donc c'est aussi par rapport à un rejet de ce modèle-là qui fait qu'on est encouragé à passer le plus de temps possible sur les applications, de voir du contenu qui est engageant, qui va nous pousser à réagir. À travers le fait divers, il y a aussi dans les logiciels qui sont proposés des manières différentes de consommer du contenu qui ne soit pas uniquement alimenté par un algorithme qui peut être opaque, une course aux statistiques et la bonne humeur d'un milliardaire qui viendrait racheter votre outil de communication préféré.
D'accord, oui, d'ailleurs, c'est important de préciser, on l'a expliqué dans l'émission sur Mastodon, que notamment Mastodon, lui, il y a un fil chronologique et qu'il n'y a pas un algorithme avec, alors je ne sais pas maintenant aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il y a sur Twitter, je crois qu'il y a vos abonnements et pour vous, un truc comme ça dans les fils. Donc c'est effectivement, ouais, c'est l'absence de cet algorithme qui change radicalement les choses. Et il y a aussi des fonctionnalités qui sont, alors je prends encore l'exemple de Mastodon, il y a une fonctionnalité que l'équipe de dev refuse d'implémenter qui est la citation. Donc je renvoie encore sur l'émission avec avec donc sur Mastodon, qui était avec Benjamin Sontag et Cécile Duflo, donc une utilisatrice de Twitter et de Mastodon. Donc effectivement, ça change sans doute les choses. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose, Audrey.
Ouais, non, mais c'est simplement pour continuer avec ce que tu dis. Hein. C'est vrai que sur Mastodon, peut-être on va retrouver beaucoup plus cette notion de peut-être de préservation des utilisateurs et des utilisatrices. C'est vrai que plutôt que d'avoir des mécaniques qui vont renforcer les phénomènes d'addiction, la course à la popularité, effectivement, ces mesures-là. Là, ces indicateurs de popularité, les j'aime, les partages, etc., vont être présents, mais moins mis en valeur, ne vont pas nourrir un algorithme, effectivement. Et puis, sur Mastodon, il y a aussi beaucoup la notion de consentement qui est plus importante, j'ai l'impression, c'est-à-dire que par exemple, sur Twitter, mais c'est ce qui va alimenter aussi tout les phénomènes d'addiction et puis le modèle économique de Twitter. Dès qu'il va se passer quelque chose, on va chercher à capter l'attention, à dire par exemple s'il y a un profil que l'on suit, qu'on aime bien, si cette personne-là aime un contenu, eh bien ça va nous l'être affiché. Et donc la personne qui a aimé un contenu ne souhaite pas forcément que tout ce qu'elle fait soit propagé à toutes les personnes qui vont la suivre. Mais ça, bon, Twitter, c'est pas dans son intérêt d'essayer de préserver plutôt la vie privée de certaines personnes. Bon, sur Mastodon, on va pas avoir ce phénomène-là. Et puis, on va plutôt chercher à ce que les utilisateurs gardent vraiment le contrôle de ce qu'ils font sur en publiant des contenus. Voilà, donc une approche tout à fait différente, mais qui va avec ce que disait Thomas, avec le fait que le modèle économique de Twitter n'est pas du tout reproduit dans le fait divers.
Alors, je suppose que ce que vous décrivez concernant Mastodon est valable aussi pour, par exemple, le partage de photos, si on compare c'est Instagram ou autre, et donc avec PixelFed, que côté fait divers, il y a cette absence aussi d'algorithme. C'est par rapport à Instagram, je suppose que c'est le même type de fonctionnement. Thomas.
Alors, c'est un algorithme uniquement chronologique, mais quand bien même, en fait, s'il y aurait un algorithme, le fait est que la plupart des logiciels sont du logiciel libre, et on peut avoir plusieurs logiciels qui communiquent entre eux. Et donc, du coup, on peut avoir plusieurs expériences utilisateurs, et du coup, on pourrait avoir plusieurs algorithmes, parce que du coup, ça pourrait être pertinent, par exemple, de ne pas se limiter à un système de timeline chronologique, mais du coup, que ça soit, par exemple, choisi par l'utilisateur, et que ça soit transparent sur quels sont les critères de recommandation du contenu.
Oui, effectivement, tu as raison de préciser, parce que c'est vrai que je laissais sous-entendre que j'employais le terme algorithme de façon négative, mais en fait, oui, c'est pas forcément toujours le cas. Thomas, toi, tu es aussi contributeur, donc à travers Mobilizon, donc en tant que chef de projet développeur salarié chez Framasoft. Toi, qu'est-ce qui te motive, en fait, et qu'est-ce qui motive Framasoft, d'ailleurs, plus généralement, sans doute aussi, à proposer ce genre d'outils, donc en l'occurrence Mobilizon, mais c'est pas le seul, hein, il y a, j'ai trop de mémoire sur le deuxième.
Gansio, qui est un autre outil fédéré.
Ok, mais en tout cas, sur Mobilizon, toi, quel est ton intérêt, en tout cas, propre, et puis quel est l'intérêt de Framasoft, la motivation?
Alors, du coup, moi, en tant que salarié de Framasoft, j'ai pas forcément un intérêt direct, même si, du coup, j'aime tout à fait ce que je fais. Dans le cadre de Framasoft, on voulait un système d'alternative à des plateformes comme Meetup et notamment Facebook, qui est beaucoup utilisé uniquement pour les événements Facebook, car, du coup, beaucoup de gens ont un compte Facebook et c'est encore un des meilleurs endroits pour diffuser de l'information et vérifier le nombre d'inscrits et ainsi de suite. Si Framasoft avait fait une plateforme centralisée classique, c'est-à-dire de la même manière que le reste de nos Frama services, on a une plateforme qui permet de publier des événements et du coup on aurait dû laisser le service accessible à la tiers entière et on doit modérer typiquement ce service avec des contenus qui sont publics, qui sont pas forcément dans les langues que les membres de Framasoft comprennent. Et ça aurait été très compliqué de garder le service ouvert si jamais il y avait eu du contenu problématique. À travers, du coup, l'aspect fédéré du logiciel, on permet à d'autres organisations d'héberger du coup ce logiciel et de proposer du coup à des publics différents. Nous-mêmes, à Framasoft, nous hébergeons une instance qui s'appelle mobilisons.fr qui est ouverte aux francophones. Et par contre, on va trouver des instances germanophones, italianophones, d'autres qui sont plus thématiques. J'ai donné l'exemple d'Extinction Rebellion au début. Elles sont modérées du coup et gérées de la manière dont ces organismes ou des particuliers le souhaitent. Et du coup, ça fait en sorte que on n'a pas la responsabilité de l'intégralité de ce contenu, et on peut proposer du coup une alternative des plateformes, comme j'ai dit, Meetup et Facebook Events, sans avoir la charge technique déjà de proposer un service de cette taille-là, et la charge humaine, donc tout ce qui est des questions de communication et du coup des questions de modération.
D'accord. Alors, c'est bien, tu viens de parler d'Extinction Rébellion et autres. Ça me permet de rebondir sur ma seconde partie de question. C'est est-ce que c'est encore qu'un repère de geek, le fait divers, ou est-ce que, alors, suite évidemment au rachat de Twitter par Elon Musk et d'autres événements, est-ce que finalement aujourd'hui il y a des gens qui sont pas geeks, qui rejoignent le fait divers? Alors, Thomas a cité Extinction Rébellion notamment pour les mobilisons. Voilà. Est-ce qu'on retrouve des gens finalement qu'on retrouve ailleurs, qui ont l'habitude d'utiliser d'autres réseaux?
Oui, hein. Oui, Thomas.
On va clairement trouver des gens dont les réseaux ont des ponts avec des geeks, donc potentiellement des activistes, des gens engagés, des gens qui pourraient se trouver en marge des réseaux centralisés classiques, mais aussi des gens qui essayent de temps en temps de migrer, soit eux-mêmes, soit en faisant partie d'une communauté. Il y avait eu pas mal de, comme Audrey l'a dit, des communautés scientifiques qui se sont installées sur Mastodon. On a vu aussi quelques artistes ou artisans qui sont arrivés, qui servent de manière intéressante, même s'ils n'ont pas le même nombre d'abonnés que sur d'autres médias sociaux, ont un, je ne sais pas s'il y a un terme français plus adapté, un engagement plus efficace finalement sur Mastodon, car du coup le nombre d'utilisateurs actifs est plus important au final, et du coup ils ne sont peut-être pas privilégiés dans l'algorithme de Twitter, mais au sein des partages et de l'activité sur Mastodon, ils ont eu plus de visibilité au final. Donc il y a des gens qui tentent et qui s'installent, il y en a qui créent des comptes et qui ne restent pas, mais du coup c'est quand même intéressant de voir une communauté, et enfin de trouver une communauté un peu différente, puisque du coup quand bien même ce ne serait pas des médias sociaux fédérés, c'est toujours un peu compliqué de se lancer dans un nouveau réseau social, puisque même si on peut avoir du coup via les applications qui synchronisent la liste des contacts, on peut essayer de se recréer un réseau rapidement, mais on explore quand même. Il y a cette partie de, au début, on est un peu perdu, et puis on découvre des gens, on trouve des intérêts en commun, on suit plus de gens, pour les plateformes en tout cas qui ont ce concept-là. On explore du contenu, et voilà, on s'y trouve, et certaines personnes font l'effort, que ça soit sur Mastodon, pour Peertube ou Mobilisons, et trouvent leur place.
Alors, je précise juste que Peertube est le nom du second logiciel que je cherchais tout à l'heure, développé par Framasoft. Voilà. Justement, alors, donc Audrey, Thomas, on peut employer le terme d'exploration. Justement, cette exploration de l'archipel dont tu parles, du fait divers, quels conseils vous donneriez pour des personnes qui écoutent l'émission et qui se disent « bon, bah, j'ai envie de découvrir ». Par quoi commencer? Quelles sont les bonnes pratiques ou les pièges à éviter? Je ne sais pas.
Alors, tu vois, j'ai envie de te dire, déjà, c'est vrai que ce qui s'est passé avec cette migration, on va dire, en octobre-novembre, là, quand il y a eu plein de nouvelles personnes qui sont arrivées sur Mastodon suite au rachat de Twitter par Elon Musk, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de contributions, de documentation, d'aide. En fait, il y a une espèce de forme d'accompagnement généralisé qui s'est mise en place. Donc, il y a du contenu à trouver, à aller chercher. Alors, par une recherche web, simplement, aller rechercher des tutoriels, un petit peu de documentation pour voir, avoir une vision d'ensemble de comment ça fonctionne. Et puis, ensuite, une bonne chose à faire, c'est de passer par exemple des portails qui vont nous guider dans le choix d'une instance, parce qu'effectivement pour rentrer dans le fait divers, eh bien, il faut commencer par choisir une instance. On peut en essayer une, se tromper, en essayer une autre, ouvrir trois comptes si on veut, évidemment là c'est libre, mais donc une bonne pratique, c'est de passer par un de ces portails là. Alors pour Mastodon en particulier, il y a joinmastodon.org, pour Peertube pareil, joinpeertube.org. Pour Mobilisation, c'est pareil, joinmobilisation.org. Et puis, il y a des sites web qui vont être un petit peu plus généralisés. Il y a fedivers.info, fedi.directory qui permet aussi de retrouver certains comptes et de trouver des instances par thème. Enfin, voilà, il y a depuis quelques années, et puis plus récemment, depuis octobre-novembre 2022, il y a eu un effort qui a été fait pour justement essayer de rendre un petit peu plus facile cette première approche, cette première entrée dans le fait divers, parce que c'est vrai qu'en 2017-2018, là, pour le coup, tu parlais d'un repère de geek, là, c'était plus le cas. Mais maintenant, alors on peut dire que c'est plus sympa d'entrer dans le fait divers maintenant.
D'ailleurs, en parlant de ça, donc sur la page consacrée à l'émission, on a mis des références qu'on va compléter, et notamment il y en a un bloc-notes collaboratif sur qui est dédié de mémoire à Mastodon, et qui a été fait justement par des personnes qui se sont créé des comptes sur Mastodon. Tu veux vas-y Audrey.
Simplement, maintenant que j'y pense aussi, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui manquait, c'était l'usage aussi sur les téléphones, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les médias sociaux sur leur téléphone, et donc c'était quelque chose qui pouvait manquer parce que c'est une habitude qu'on peut avoir. Et donc depuis, il y a eu des applications qui ont été développées sur Android, sur les boutiques aussi Android ou iOS. Enfin bon, il y a des applications, des clients web aussi qui permettent aussi d'avoir un usage peut-être plus habituel, plus familier du fait divers.
Alors je vais relayer une remarque sur le salon web, ça me servira de question pour nos invités, en commençant par Thomas. Donc une remarque sur Mastodon: je ne retrouve pas facilement les personnes que je recherche qui sont peut-être sur une autre instance quand on utilise l'onglet de recherche. Alors, ma question, c'est vrai qu'on a bien compris qu'il y a des différentes instances, des comptes qui sont créés sur différentes instances. Alors, contrairement à une instance, enfin un service centralisé où finalement les personnes, on les trouve assez facilement, est-ce que finalement on arrive à retrouver ses amis, ses potes? Est-ce qu'il y a des annuaires, par exemple? Est-ce qu'il y a un annuaire des comptes qui existent sur Mastodon avec différentes instances? Comment on fait pour retrouver ses potes?
Alors, il y a des personnes qui ont mis en place des annuaires, notamment thématiques, au moment du coup de la grande vague d'exode de Twitter il y a quelques mois. Après, on est limité puisque du coup, comme on n'est pas avec un service centralisé, tant qu'il n'y a pas eu d'interaction entre les utilisateurs de chaque serveur, on ne sait pas quels utilisateurs existent ailleurs. Donc si je cherche juste en effet le nom d'une personne sur Mastodon, je ne suis pas garanti de pouvoir la trouver. On a du coup une solution qui est ce qu'on appelle les identifiants fédérés, qui ressemble exactement à un email finalement. C'est l'identifiant de la personne @ le nom de domaine du serveur de l'instance du coup sur lequel elle est. Donc cette personne peut vous donner cet identifiant là, et à ce moment là vous pouvez la chercher avec cet identifiant et vous la retrouverez. Mais ça souffre effectivement de cette limitation qui n'est pas un avantage. Encore une fois, pour comparer ça à l'email, de la même manière, vous ne pouvez pas envoyer un email à quelqu'un si vous ne connaissez pas son email ou si vous ne l'avez pas déjà dans votre carnet d'adresses.
Tout à fait. Alors le temps passe très vite et je vous rappelle qu'il y a la dernière question de résumé, mais avant ça, en fait, j'ai envie de vous poser une question sur les défis du fait divers. Alors, cette question est un peu piège parce qu'elle n'était pas du tout prévue, mais, ou sur l'avenir du fait divers, pour qu'il reste, enfin, qu'il bénéficie toujours finalement aux personnes utilisatrices, quels sont les enjeux? Alors, ça ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que vous voyez comme enjeux principaux aujourd'hui? Qui veut commencer? Alors Audrey commence.
Non, pardon, je faisais un signe parce que j'entendais Thomas qui était lancé.
Vas-y Thomas.
J'allais dire du coup, faire en sorte que le fait divers, enfin en tout cas les plateformes du fait divers ne soient pas uniquement des alternatives vers lesquelles des utilisateurs se ruent dès que les plateformes centralisées classiques font des bêtises. Et potentiellement de redevenir... le mode de fonctionnement par défaut d'Internet, il va y avoir au niveau de l'Union européenne du coup des lois qui vont être mises en place pour faire en sorte que les géants du net aient davantage d'interopérabilité et que des nouveaux entrants sur le marché soient plus aptes et ne soient pas empêchés par le fait que Facebook ou WhatsApp ne soient pas opérables avec d'autres réseaux. Donc potentiellement il y a un coup à jouer à ce niveau-là aussi. Et du coup, réussir à faire en sorte de convaincre, pour moi, davantage d'organisations, potentiellement au niveau local, potentiellement au niveau thématique, d'ouvrir des instances, parce que c'est compliqué de maintenir des instances généralistes, notamment pour des questions de modération, comme j'ai dit, ou des questions techniques, parce que pour avoir des instances très grosses avec un grand nombre d'utilisateurs, il faut avoir des fonds. Et c'est compliqué aujourd'hui de demander aux gens de payer quand on a un modèle économique différent de celui des géants du net. Donc oui, voilà, c'était à peu près ça mon point.
Merci Thomas. Donc Audrey, sur la même question.
Oui, oui, alors il y a effectivement cet enjeu-là, et puis peut-être la lutte contre la centralisation du fait divers, c'est un phénomène qu'on peut observer qui se fait naturellement. En fait, quand on arrive dans le fait divers, c'est bien, c'est normal, on veut être là où il y a du monde, et donc le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se rendre, de s'inscrire sur les plus grandes instances, et donc voilà, il y a des instances à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs et d'utilisatrices, et ça peut reposer le problème et bien de la centralisation. On se retrouve de nouveau avec voilà, une situation où on a quelques personnes qui ont la responsabilité et le contrôle sur des centaines de milliers de personnes, alors que l'idée dans la fédération, dans le fait divers, c'est plutôt bien d'avoir voilà, une grande décentralisation avec un rapport voilà, entre personnes qui vont contribuer, qui vont mettre en place, gérer des espaces, gérer des instances dans le fait divers, et puis les utilisateurs et utilisatrices d'instances. Et donc pour ça, eh bien, pour qu'il y ait une grande diversité d'instances, pour qu'on ait tout plein d'instances, avec pas seulement quelques grandes instances, ça veut dire qu'il faut travailler à ce qu'il y ait une appropriation du fait divers par davantage de personnes, que ce soit peut-être davantage accessible, qu'on ait envie de s'y pencher, qu'on ait envie d'y contribuer, qu'on ait envie voilà, de changer un petit peu sa position et de pouvoir voilà, contribuer à mettre en place des espaces qu'on pourrait plus considérer comme des espaces publics de communication plutôt que voilà, de devoir communiquer dans quelques espaces privés. Voilà, donc l'appropriation du fait divers par davantage de personnes, je dirais. Et puis, et voilà, comme disait Thomas, revenir à ces valeurs initiale hein, du web, qui était de dire eh bien on essaye d'avoir un espace numérique où on peut communiquer en choisissant où on communique, comment on le fait, sans dépendre de quelques acteurs. C'est bien le défi là du fait divers de se démocratiser un petit peu plus peut-être aussi.
D'accord, écoutez, merci. On va passer à la dernière question traditionnelle. Donc en moins de 2 minutes chacune et chacun, quels sont pour vous les éléments clés que vous aimeriez faire passer? Qui veut commencer? Bon, Thomas, allez.
Du coup, le fonctionnement du service fait divers, c'est pour redistribuer du coup du pouvoir au sein des plateformes Internet. Il y a plein de logiciels qui fonctionnent comme ça pour faire notamment des médias sociaux ou de la communication de contenu, quelle qu'elle soit. On appelle les différents nœuds du réseau des instances et on peut s'inscrire sur la plupart d'entre elles en vérifiant quelle est leur politique de modération, leurs conditions d'utilisation et qui et pourquoi les offre. Et du coup, si on s'y intéresse, c'est pour essayer de voir comment l'utilisation de ces plateformes peut se faire autrement, avec davantage de possibilités et potentiellement plus de liberté qu'avec les logiciels des plateformes centralisées. Et du coup, je suggère d'aller sur les liens qu'on a mis en description pour s'inscrire un peu, voir comment ça fonctionne, si on est à l'aise, installer des applications mobiles si on a envie et demander de l'aide, parce que du coup, il y a une grosse communauté très sympathique sur ces plateformes.
Merci Thomas. Audrey ?
Thomas a dit plus important, je crois. Alors, peut-être, oui, garder en tête que même si les médias sociaux, on peut avoir tendance à les critiquer énormément, à dire que voilà, ça peut être des vecteurs d'addiction, de pratiques nocives en général, ça peut aussi être des outils numériques où on peut avoir voilà, des discussions riches, apprendre beaucoup de choses. Et puis, dans le fait divers en particulier, se donner la possibilité de choisir un espace de communication qui nous convient, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent à l'aise pour publier du contenu, en partager. Et puis, dans le fait divers, voilà, ça, on change un petit peu en essayant, en allant voir ce qui se passe là-bas, puis éventuellement en contribuant aussi à la maintenance d'une instance, à sa modération, en contribuant aux faits divers de façon générale, eh bien on se met dans une position où on va être un acteur, une actrice de voilà, la possibilité qu'il existe des espaces en ligne où on peut échanger sans dépendre d'acteurs privés. Et ça, c'est quand même une belle possibilité à saisir quand même, voilà, de disposer de ces dispositifs. Dispositifs, on est fatigué à la fin. Disposer d'outils numériques voilà, où on peut s'en servir de façon autonome. Et c'est ça qui est important, voilà.
Eh bien, écoutez, merci à vous deux. Hein. Donc, je rappelle que nos invités étaient Audrey Guélou, qui est membre de l'association Picasoft, hein, picasoft.net, et doctorante en sciences de l'information et de la communication, donc à l'Université de technologie de Compiègne. Et à distance, nous avions Thomas Citarel, qui est chef de projet et développeur salarié de l'association Framasoft, framasoft.org. Sur le site libreavoue.org, vous avez de nombreuses références qu'on a déjà mises et qu'on va sans doute rajouter suite à l'émission pour vous permettre de découvrir le fait divers. On en reparlera dans Libre à vous pour peut-être parler plus de technique ou autre, en tout cas avec d'autres personnes sans aucun doute, probablement à partir de la rentrée de septembre. Voilà, en tout cas c'était un grand plaisir. Je remercie donc Audrey et Thomas de leur intervention. Merci à vous et puis belle journée.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Fred, merci à tout le monde et puis bonne journée aussi.
Alors nous allons faire une pause musicale. Alors cette pause musicale n'a pas été choisie par Audrey, ça c'est moi qui l'ai choisie, c'est Benvindo par Madame Rose, c'est la vie. On se retrouve dans 2 minutes 30, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune,
93,1. Problema esquecido, nada divertido, porque não ter ido. Veja o perigo, ninguém me dá abrigo. Não sou mais bem-vindo, mas permaneço vivo. Pra onde estou indo agora que eu não ligo? Não sou mais bem-vindo, mas permaneço vivo. Pra onde estou indo agora que eu não ligo? Agora que eu não ligo.
c'était Benvindo par Madame Rose, c'est la vie, disponible sous licence libre CC BY, donc Creative Commons Attribution.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. C'est la chronique à cœur vaillant, la voix est libre de Laurent Costi, administrateur de l'April, et de sa fille Laurette. Le thème du jour, forensique des journées du logiciel libre 2023.
Hello Laurette, faut que je te cause de mon week-end à Lyon. Je suis allé au JDLL le week-end du 1er et 2 avril et j'ai trop de trucs à te raconter.
Waouh! Alors bon, déjà pour commencer, je vais faire comme tu m'as toujours appris, expliquer aux gens qui nous écoutent les accros anonymes. JDLL, ça veut dire journée du logiciel libre. Ils auraient même pu mettre un troisième L pour Lyon d'ailleurs. Et d'ailleurs, juste laisse-moi deviner, c'est clairement un événement avec tout plein de gens comme toi qui passent leur temps à bubuler sur des logiciels libres genre...
C'est pas faux. Ils auraient d'ailleurs pu mettre MPT à la fin, puisque ça se passe à la Maison pour tous des Rancy. Ça aurait donné JDLLL MPT.
Ouais, journée du logiciel libre de Lyon à la Maison pour tous. Mais ils l'ont pas fait. Donc pouf, revenons à nos moutons numériques, je te prie.
Oh, tu crois pas si bien dire. Il faudra que je te parle aussi un jour de ce collectif qui se qualifie lui-même de technocritique. Ils ont des ressources intéressantes pour appréhender les impacts du numérique sur la société.
Ben, c'est quand tu veux. Tu me rends chèvre avec tes dialogues.
Alors, la prochaine fois, si tu peux t'attribuer ce type de réplique, ça m'arrangerait, je suis preneuse. Merci.
Les JD3LMPT.
Bah d'abord, j'ai commencé par intervenir avec Clélou. Elle témoignait de l'usage de Zurich pour l'association Rhizome, qui veut dire réseau d'initiatives solidaires mutuelles et écologiques. Ils agissent sur le territoire autour de Malin, près de Dijon. Ils ont un projet de foufou les baloufs pour lequel on trouve les détails sur le site alternative au pluriel agriculturel.fr.
Ah waouh, vous kiffez vraiment les acronymes. Mais sinon, damn, ils ont même un projet de sécurité sociale de l'alimentation, à ce que je vois, franchement, respect. Et donc, Clélou présentait l'usage de Zurit au sein de la structure pendant que toi, t'expliquais ce que c'était, c'est bien ça? Puis d'ailleurs, juste en passant, tu savais que Zurit, ça veut dire la pieuvre en créole réunionnais?
Alors après l'anglais, l'espagnol et le russe, tu te mets au créole maintenant? T'as pas mieux à faire de ta jeunesse, aller en boîte, jouer aux jeux vidéo? Mais bon, en tout cas, je me la note, ça pourrait peut-être me servir dans mon boulot. En échange, je te propose forensique comme terme, ça te parle?
Mais sinon, bien sûr, c'est l'analyse scientifique de cas, appelée par importation du terme anglais, science forensique ou la forensique. Ça regroupe l'ensemble des méthodes d'analyse scientifique qui servent pour un travail d'investigation.
Bon, bien sûr, moi je savais aussi. Et heureusement parce que ça a été un terme utilisé à plusieurs reprises dans la conférence d'Esther intitulée « Pirog Tools Suite, analyse forensique et analyse réseau de terminaux mobiles ». Tu me crois pas, je connaissais le projet Pirog.
Je te crois pas. Mais d'un autre côté, je doute qu'il s'agisse d'un projet mêlant habilement la faible densité du bois et la poussée d'Archimède pour descendre à un fleuve entre le Suriname et la Guyane française.
Ah, tout juste le blanc. Et puisqu'on est dans une chronique culturelle, donnons le nom du fleuve, le Maroni. Et le projet Pirog dont il est question permet ainsi d'alimenter la base de données d'Exodus Privacy dont nous avons déjà parlé.
Qui simplifie l'analyse de traceurs des applications de smartphones Android et iOS pour les utilisateurs et utilisatrices qui n'ont pas de compétences avancées. C'est une sage pratique que de scanner de temps en temps son smartphone. Ça permet de se poser la question de l'utilité des applis installées et d'en chercher d'autres plus safe pour nos données personnelles.
Bref, merci à Esther. Elles sont impressionnantes ces compétences techniques. Merci aussi à toutes celles et ceux qui contribuent au projet Exodus Privacy. Salutations à Bakan, Xaka Nico, avec qui il était fort sympathique de boire un coup. D'ailleurs, pardon, j'ai séché l'apéro chaton pour cet apéro off.
Mais tu vas pas nous raconter tes beuveries quand même. Est-ce que moi, je raconte mes nuits alcoolisées en boîte de nuit?
Oui, souvent même.
Ah, oui.
Et moi, c'était du jus de pomme en plus. Je me suis arrêté un verre parce que ça commençait un peu à tourner. Sinon, j'ai aussi joué au jeu du GNU qu'Isabelle Avani animait dans une version bêta-test. C'est un jeu de loi élaboré dans le cadre du groupe de travail Sensibilisation de l'April qui permet en douceur d'appréhender l'importance des libertés numériques et du logiciel libre.
Waouh, alors c'est quoi le logiciel libre? Parce que j'en ai déjà vite fait entendu parler, mais je me souviens plus des quatre libertés qui sont de pouvoir utiliser, étudier, modifier et distribuer le code.
Ah bah, ce sont des programmes dont la licence précise les quatre libertés du logiciel libre. Pouvoir utiliser, étudier, modifier et distribuer le code.
Merci, ton savoir m'est précieux pour avancer dans la vie, car la route est longue mais la voie est libre, comme disait le fameux Frama Platon ou Frama Lovelace, je sais plus. Et au-delà du jeu du gnou... Oh, mais tiens, ça me fait penser à une chanson, tu sais, genre, ça fait un truc du style... Tête, épaule, gnou, pied, gnou, pied. Tête, épaule, gnou, pied, gnou, pied. Ouais. Mais sinon, rien d'autre à déclarer?
Justement, par rapport à cette route longue, ce genre d'événement permet de voir que le numérique alternatif touche de plus en plus de monde et de structures. Il y a 20 ans, promouvoir les logiciels libres, c'était pas simple. Tu vois le rocher de Sisyphe? Tu vois le tonneau des Danaïdes? Tu vois Jupiter, la géante gazeuse?
Waouh, la culture générale! Mais sinon, oui, la gravité sur Jupiter est 2,5 fois plus forte que sur la Terre.
Eh bien, tu mets le rocher de Sisyphe dans le tonneau des Danaïdes et t'essayes de remonter le tout sur une colline gazeuse de Jupiter. C'est assez fatigant.
Faut avoir foi. Et pas se le faire dévorer.
Eh bien, les JDLL, tout comme les journées du libre éducatif qui se sont déroulées à Rennes le 7 avril, montrent que le libre et les communs numériques font leur chemin. Et aussi dans l'éducation nationale. Tout ça permet de se dire que tout n'est pas vain. Il y a vraiment des belles personnes qui naviguent dans cet univers, ça mêlée poêle, comme dirait mon François Audirac préféré.
Et du coup, t'as fini avec les poêles des JDLL ou t'as encore des trucs de ma boule à raconter? Parce qu'on dirait juste sincèrement que ça a duré 2 mois, tes 2 jours-là.
Bah j'ai pas fini en plus. J'ai assisté aussi à une conférence sur Why You Know Host, un système qui se veut plus simple pour s'auto-héberger. Bien sûr, le néophyte en serveur et système GNU Linux reste démuni, mais ça démocratise l'administration serveur et la rend plus simple pour des personnes un peu sensibilisées. Encore un projet remarquable.
Ah mais ouais, c'est ce qui tourne sur la brique internet que propose l'association Neutrinet en Belgique. Puis finalement, d'ailleurs, après plusieurs mois, ça tourne pas mal tout ça quand on fait régulièrement les mises à jour. Je reçois plutôt bien mes mails gérés par la brique, hein.
Encore une fois, c'est grâce à l'aide des cool gens de Neutrinet et du projet Why You Know Host qui aident patiemment en cas de soucis. Et un big up de plus dans cette chronique dédiée aux remerciements. Et coucou en passant à HGO et à Cello. Et j'ai toujours pas fini. Faut que je te cause aussi de 2 députés européens qui ont bien voulu participer à l'atelier le dimanche.
Waouh, t'as des relations dites donc. Tu pourrais pas en profiter pour suggérer à tes connaissances de faire passer genre une loi européenne pour que Laurette Marie-Alice Costi ait son BUT GACO à la fin de son cursus par exemple?
Bah écoute, je vais voir ce que je peux faire. Bon, sinon, Loïc Daillot et Stéphane Bortsmeyer, mes 2 députés européens de circonstance, ont assisté et commenté les échanges entre 2 groupes. L'un représentait les intérêts d'un développement rapide de l'IA en Europe, et l'autre, la société civile qui préconisait une prudence et des réflexions partagées préalables. Le logiciel libre et la transparence devaient faire partie des arguments.
Alors, pour ma part, je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Genre, mon pote Alexis, il a donné des consignes à ChatGPT pour écrire une chronique humoristique avec un père et sa fille qui parleraient de numérique et de logiciel libre. Donc j'ai un peu le regret de t'annoncer qu'on va sûrement bientôt être au chômage, mon petit papa Robaz. Même si, ne t'en fais pas, pour l'instant, la subtilité de ton humour reste inégalée.
Oh, j'aime quand tu me dis de si jolies choses, même si c'est moi qui les écris.
Pour en revenir au débat des JDLL, y a-t-il eu des suggestions pour changer le nom de ChatGPT pour éviter les « dans l'eau, ça fait des bulles, c'est rigolo » Et c'est à cause de ça le moratoire sur l'IA demandé par certains de la Big Tech?
Non, mais en tout cas, tout le monde a joué le jeu. Je remercie donc tous les participants et les participantes, en particulier bien sûr Loïc Daillot et Stéphane Bortsmeyer, qui pourraient très bien être de vrais députés européens d'ailleurs. Pareil, Clélou n'a pas pu rejoindre l'Assemblée, mais elle aurait fait une super députée, j'en suis sûr.
Mmh. Et juste du coup, par pure curiosité, c'était quoi le résultat de ce jeu de rôle?
Boarf, c'est sûr, les GAFAM ont des moyens de convaincre. Mmh. Mais je ne dévoilerai rien ici. J'invite les gens qui nous écoutent à venir au JDLL 2024 et à regarder et écouter les conférences sur le PeerTube des JDLL.
Ton habileté à promouvoir cet événement et les gens qui y participent n'a d'égal que la subtilité avec laquelle ta fille parvient à te complimenter.
Et spontané les compliments, spontané. Bon, pour conclure, je dirais que l'ambiance est vraiment chouette, se veut inclusive et y réussit plutôt bien. De ce que j'en ai vu, l'esprit est bienveillant et du coup, je pousse encore un remerciement à toutes et tous les bénévoles qui organisent cet événement important pour le logiciel libre.
On va en rester là, hein? Je pense, les compliments, on en a eu assez. Ça me semble pas mal. Bon, allez, Zouzou, je contrefais la super blague d'Alexis qui a essayé de nourrir ChatGPT. À tantôt, mon délicieux Papa Nakota.
Mais comment tu veux renchérir là-dessus sur le thème du numérique ? Bon, tant pis, je te donne rendez-vous à la prochaine chronique où je te raconterai mon vécu aux Intestinales 2022, monde insoupçonné et manifestation organisée par le réseau de l'assainissement écologique. La bise, ma puce, au Nakota.
Nous venons d'écouter la chronique à cœur vaillant, la voix est libre, de Laurent Costi, administrateur de l'April, et de sa fille Laurette. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Notre chère présidente Magali Garnero, alias Bouquinette, continue son tour de France des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Après Rennes, Beauvais sera à Nantes ce samedi 22 avril 2023. Il y aura également toujours à Nantes, c'est la même chose en fait, il y aura un apéro le soir. Donc en fait, dans l'après-midi, il y a une rencontre avec la présidente et le soir, il y a un apéro. Donc à Nantes, samedi 22 avril 2023. Côté Paris, le prochain apéro au local de l'April aura lieu le vendredi 28 avril 2023, donc dans le 14e. Toutes les informations, vous les trouvez sur le site april.org. Et il y a également beaucoup d'événements libristes qui ont lieu actuellement que vous retrouverez sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Je profite que j'ai peut-être une petite minute encore d'avance pour vous signaler que vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message. N'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. L'April participe à cette belle aventure que représente Cause Commune Radio Associative. La radio a toujours besoin de soutien financier, notamment pour payer les frais matériels, loyer du studio, diffusion sur la bande FM, serveur. Nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don. Toutes les infos sont sur le site causecommune.fm. Vous pouvez aussi aider à consacrant du temps. Et je rappelle que la radio a couvert avec, je crois, la quasi-totalité des manifestations récentes et sans doute des manifestations à venir, dont tout le monde sait de quoi je parle, évidemment. Et dont G on a parlé dans sa première chronique. Je dirais comme Audrey, vivement que l'émission se termine parce que la fatigue est là. Donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Donc G, Audrey Guélou, Thomas Citarel, Laurent et Laurette Costi. Aux manettes de la régie, l'extraordinaire Thierry Olville qui a improvisé aujourd'hui la gestion avec un nouvel outil. Bravo et merci Thierry. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions. Nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 25 avril 2023 à 15h30. Je ne sais pas de quoi on parlera dans le sujet principal, ce sera la surprise. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 25 avril. Et d'ici là, portez-vous bien.